je présente, je ne fais pas une conférence, c'est plutôt une conversation, une causerie, avec une petite présentation du Portugal, avec un rappel géographique. C'est un pays qui a la superficie, c'est le cinquième de la France, avec 10 millions d'habitants, mais un nombre d'habitants à l'extérieur qui est au moins de 5 millions, sans compter ce qu'on appelle les luso-descendants, ce qui fait que la langue portugaise est parlée partout dans le monde, sur tous les continents, soit parce qu'il y a des pays de langue portugaise, comme le Brésil, qui est une création portugaise avec 215 millions d'habitants, 5 pays d'Afrique de langue portugaise, des communautés en Afrique, à Goa, à Timor surtout, et aussi une diaspora portugaise très ancienne, soit de diaspora juive portugaise, soit une diaspora des îles, des Açoriens, des Madérois, partout dans le monde. En Afrique du Sud, ils sont 300 000 par exemple, pratiquement tous d'origine de Madère d'ailleurs. En Australie, 50 000, et dans tous les pays du monde, en France, on ne sait pas, ils sont 500 000, mais avec les luso-descendants, il y a à peu près 2 millions de personnes qui parlent portugais, qui ont des origines portugaises en France. Et on distingue au Portugal vraiment deux zones, le nord et le sud. Le nord qui est très montagneux, comme vous voyez, les roches sont le granit, le schiste où pousse la vigne, les vignes du Douro qui donnent le vin du Porto, et le granit donne le matériau de construction, donc les villes du nord sont très grises, très sombres, tandis que le sud sont les grandes plaines alluviales avec du calcaire, du marbre, et toutes les constructions, que ce soit en Alentejo, à Lisbonne, sont faites avec cette pierre blanche, et surtout les pavés. Les trottoirs sont recouverts de pavés en calcaire métamorphique blanc, jaune et noir aussi. C'est du calcaire carboné qui donne, pour tous ceux qui sont allés là-bas, une saveur à toute la promenade à Lisbonne et dans les villes portugaises qui est incomparable. Alors, il y a vraiment une littérature du nord du Portugal et une littérature du sud centrée autour de Lisbonne. Une littérature lisboète. Un petit rappel pour dire que les Portugais sont allés partout dans le monde, ça c'est une carte très importante de Cantino de 1501, 1502. Et ici, soudainement, le monde apparaît. Remarquez que l'Afrique est parfaitement dessinée par les Portugais en 1502, avec une exactitude tout à fait extraordinaire. Les Portugais ont exploré la côte occidentale africaine pendant quasiment 60 ans, ils ont doublé le Cap de Bonne-Espérance. Je ne sais pas s'il y a un problème de son. Non, ça va. Double le Cap de Bonne-Espérance en 1488. Christophe Colomb atteint les Antilles, qui sont représentées ici. 1494, le monde est divisé verticalement en deux par cette ligne, c'est la ligne de Tordesillas, qui donne au Portugal le Brésil, toute l'Afrique et une grande partie de l'Asie. De l'autre côté du monde, on ne sait pas encore où passe cette ligne. Ça va être l'objet du voyage de Magellan. Vous voyez la péninsule indienne, là, qui commence à apparaître, là-haut. Vasco da Gama vient d'y arriver en 1488. L'esquisse de Madagascar, qui a été aperçue en 1500. Tout en haut, vous avez Terre-Neuve, où les Portugais sont arrivés vers 1501, 1502. Et soudainement, le monde apparaît sur les cartes et va être le théâtre de voyages de Portugais qui vont avoir le monopole du commerce du Brésil, de l'Afrique, de l'Inde, jusqu'aux îles de la Sonde. Et cet espace portugais va être exclusivement portugais pendant jusqu'en 1580. Donc des bateaux portugais vont naviguer du Portugal jusqu'au Brésil, jusqu'à l'Afrique, jusqu'à Terre-Neuve aussi, va arriver en Inde. Malacca, qui va être portugaise de 1511 à 1640. Macao, qui va être portugaise en 1557 et qui va être restituée à la Chine en 1999. Et les Portugais sont les premiers à être arrivés au Japon, où ils apportent deux éléments essentiels pour le développement du Japon, les armes à feu et les jésuites. Il va y avoir un siècle chrétien au Japon, un siècle portugais tout à fait passionnant, avec, grâce souvent aux jésuites, mais pas seulement, à d'autres ordres religieux, aux missions, une description de tous ces pays, du Japon jusqu'au Brésil, qui va circuler en Europe, et dont les encyclopédistes, que les encyclopédistes vont lire et où ils vont puiser beaucoup de leurs informations. Et ça, ça m'a intéressé tout de suite quand j'ai découvert le Portugal, c'est que c'est pas seulement la culture d'un pays, c'est une culture qui s'est mondialisée dès le 15e, 16e siècle. Et on va trouver des traces portugaises absolument partout, dans la langue par exemple, il y a 100 mots portugais dans la langue japonaise, il y en a beaucoup plus dans la langue malaise, il y a des mots africains, brésiliens, d'Asie que les Portugais vont rapporter en Europe et qui va pénétrer les langues européennes. On trouve des traces dans la gastronomie partout dans le monde de la présence portugaise. Il faut penser que c'est les Portugais qui ont introduit le piment qui était typiquement américain en Inde et dans l'Asie. Donc vous imaginez ce que ça a changé quand même pour la cuisine asiatique. Ce sont les Portugais qui introduisent le manioc américain en Afrique. Et le manioc va devenir en 2 siècles la principale nourriture des Africains, et encore aujourd'hui. Et ils vont produire comme ça, par le voyage des plantes vivrières, des bouleversements considérables dans l'agriculture et la gastronomie. Par exemple, c'est eux qui vont apporter la noix de coco d'Inde, d'océan Indien, et bien sûr la côte ouest africaine et en Amérique. La noix de coco, avant, était typiquement orientale, océan Indien et Extrême-Orient, etc., etc. Donc, ce qui m'a plu, c'est que quand on s'intéresse à la culture portugaise, on peut lire des chroniques, des livres, des récits de voyage, et c'est le monde entier qui apparaît dès le 15e, 16e, 17e siècle, et ça, c'est absolument passionnant. On a publié ainsi plusieurs livres de ces chroniques qui nous ont permis de découvrir un autre monde, un monde du 15e, 16e siècle, avant les destructions et les catastrophes. Donc ces voyages des Portugais ont donné lieu à une littérature de voyage avant la lettre. Déjà, le grand poème national portugais s'appelle les Lusiades. C'est une sorte d'odyssée qui raconte le voyage de Vasco de Gama et aussi les hauts faits de l'histoire du Portugal. C'est une sorte, oui, d'odyssée à la portugaise. Et ce livre va devenir le poème national portugais, la Bible de la grandeur portugaise. Alors, c'est un long poème, si on peut dire, et, épique, de 1102 strophes, et de 8 vers chacun, 8 décasyllabes, donc c'est extrêmement long, divisé en 10 chants, et qui a été très connu dès le 16e et le 17e siècle. Maintenant, très peu de gens le connaissent, ce grand livre, peut-être de nom, oui, ils savent que c'est un livre important, mais il était aussi connu au 19e que Dante ou le Tasse. D'ailleurs, il y a une avenue Camoens à Paris, de la fin du 19e, à côté de l'avenue le Tasse et de l'avenue Dante. Et au 18e siècle, il y a eu 2 traductions, et au 19e siècle, il y a eu 14 traductions différentes des Lusiades, pour vous dire la référence historique, littéraire qu'étaient les Lusiades pour tous les lettrés européens. Chateaubriand le cite, tous les gens du 19e connaissaient les Lusiades. En revanche, au 20e siècle, il n'y a eu qu'une traduction, celle de Bismuth en 54, qui est régulièrement rééditée et publiée toujours par Robert Laffont. C'est bilingue, mais la traduction est en prose, et on perd, c'est vrai, la poésie de la langue de Camoens, ce qui est absolument admirable. Et c'est vrai que pour nous, lecteurs français, c'est un petit peu dur de saisir la beauté de cette langue. C'est comme quand, si vous traduisez Racine en hongrois, vous pouvez penser que la langue de Racine va perdre quelque chose et que les Hongrois pourront moins goûter Racine qu'un Français. Voilà, c'est, donc, c'est un livre important, c'est le livre de référence, même de tout temps, les Portugais, même analphabètes, savaient par cœur des strophes entières de Camoens. Et ça, c'est devenu le livre de référence aussi, parce qu'il a été publié en 72, Camoens est mort en 1580, et 1581, à la suite de la bataille d'El Sarel-Kébir, où le roi Don Sébastien est mort avec toute la noblesse portugaise, c'est un désastre absolu, eh bien, Philippe II d'Espagne, qui est l'oncle de Don Sébastien, qui n'a pas de descendants, va faire main basse sur la Portugal et va rattacher le Portugal à la couronne espagnole, ce qu'on appelle l'Union ibérique, qui va durer de 1580 à 1640. Donc dès lors, dès 1580, les Lusiades, c'est le livre de l'indépendance et de la grandeur du Portugal, et cela le restera jusqu'à nos jours. Il faut penser qu'au Portugal, le jour national, le 10 juin, c'est le jour de la mort de Camões. Je connais peu de pays au monde où le jour national, c'est la mort du plus grand poète national, enfin du pays. Et ça signifie aussi que le pays, le Portugal, est un pays de poètes, est un pays où la poésie va avoir un rôle très important. Et je vais le rappeler tout de suite en disant que l'autre grand auteur connu dans le monde, mais plus récemment finalement, c'est Fernando Pessoa, qui lui aussi est un poète. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ces récits, le récit de Camões, les Lusiades, c'est le récit de la grandeur du Portugal. Ou Vasco de Gama, qui était un personnage très trouble et pas très sympathique, et vraiment coulé dans le marbre à jamais. Mais il y a aussi d'autres récits qui vont paraître à ce moment, à cette époque, et des récits qui montrent l'envers du décor. Il y a par exemple les récits de naufrages. Au Portugal, sur la route des Indes au XVIe siècle, un bateau sur trois ne rentrait pas. Bon, souvent il coulait dans les ports, il était pris par les pirates, il naufrageait. Donc il y a un nombre incroyable de naufrages sur la ligne des Indes. Lors de ces naufrages, parfois quelques personnes survivaient, et parfois, parmi les survivants, quelqu'un écrivait le récit du naufrage. Et c'était publié sous forme de petites plaquettes bon marché, avec grand succès, ce qu'on appelait la littérature de colportage ou de cordel au Brésil, et ça circulait beaucoup au Brésil. Et alors c'était écrit par des marins, parfois par des prêtres, mais ce n'était pas des œuvres littéraires, c'était des faits qui étaient racontés. Le départ, la vie à bord, les tempêtes, le danger, le pilote incompétent, le naufrage lui-même, les survivants, comment ils s'en sortaient, comment les gens se battaient pour survivre, et après les survivants sur la côte perdue en Afrique ou ailleurs, comment ils marchaient pendant des semaines, parfois des mois, pour regagner un poste où il y avait des chances de trouver des Portugais, comment ils étaient attaqués par les populations, etc. C'est des petits récits très saisissants, mais où il n'y a aucun effet littéraire. C'est des récits qui racontent la vie, le silence, la peur, la mort, l'agonie, d'une manière très simple. Donc c'est des récits extrêmement forts, très modernes, et un moine a eu l'idée de les rassembler au XVIIIe siècle, sous le titre d'Histoire tragico-maritime. 5 volumes étaient prévus, il n'y en a publié que 2, mais qui réunissent les 12 plus beaux naufrages, si je peux dire, de portugais. Et ce livre est devenu un des livres fondamentaux de la littérature portugaise, mais aussi de la littérature maritime dans le monde. On peut dire que c'est le premier livre du genre qui va connaître, va faire florès hein, au 19e siècle, mais à cette époque, on a le premier livre vraiment purement maritime, livre de naufrage, livre d'aventure, et sans effet littéraire. Il y en a un deuxième, Pérégrination, de Mendes Pinto, qui est très important. Mendes Pinto est un soldat qui s'est battu 17 ans en Asie. Il a été, dit-il, 11 fois esclave, il s'est battu, il a accompagné Saint-François-Xavier au Japon, ça c'est vrai. Il est allé en Chine, ça c'est beaucoup moins vrai, mais il a capté les récits de ses compagnons de voyage, et il en a fait un récit qui a été publié après sa mort en 1614, et on peut dire que c'est le premier roman d'aventure vécu, le premier roman d'aventure maritime, hein, vécu dans un genre maritime, et c'est absolument passionnant, parce qu'il y a 200 petits chapitres, et où sont des épisodes de sa vie, les batailles, et ça s'embarrasse d'aucune morale. Hein, il raconte les viols, ou les massacres, ou comment ils sont massacrés, torturés, sans aucun autre état d'âme, et c'est un livre très très étonnant, justement, parce que c'est l'envers du décor, c'est le côté sombre de cette entreprise de découverte et de conquête, mais c'est un roman, c'est le premier, je veux dire, roman d'aventure maritime vécu. Et il y a aussi d'autres chroniques qu'on a publiées, alors je cite les Portugais au Tibet, on a fait un livre, parce que les premiers Européens qui arrivent au Tibet, ben, c'est des Portugais, et c'est des Jésuites, ils traversent les montagnes, l'Himalaya, le père Andrade, notamment, un sacré gaillard, hein, il raconte que, passant à col, sa main heurte un caillou et qu'il y a une phalange qui s'en va. Alors, bon, il ramasse sa phalange, il met un bout de chiffon au bout du doigt, il continue. Voilà. Il arrive aveugle au Tibet, il pense trouver des chrétiens au Tibet. Et là, il doit se reposer 3 semaines pour retrouver la vue. Et puis enfin, il rencontre les lamas tibétains du royaume de Tsaparang. Et à Tsaparang, on a encore des fresques qui restent et donc cette fresque d'une divinité bouddhiste. Et il voit cette fresque et il dit, ben, c'est la Vierge Marie, bien sûr, mais un petit peu transformée par le temps, l'éloignement. Et donc il pense avoir trouvé les chrétiens perdus et qu'il va pouvoir les remettre dans le droit chemin. Mais ce qui est très drôle, et ça c'est bien dit dans tous les récits qu'il y a, c'est que la langue véhiculaire, la langue dans laquelle il va pouvoir parler avec les lamas tibétains, ça va être le persan. Et donc ce sont des marchands ambulants, persans, musulmans, qui vont servir de traducteurs entre les lamas tibétains et les jésuites portugais. Donc vous imaginez le pataquès théologique, mais tout le monde a l'air de très content de se comprendre, les jésuites entendent ce qu'ils veulent, les lamas aussi. Il va y avoir 11 ans de cohabitation un peu miraculeuse. Et il y a 6 récits tout à fait étonnants. Notamment, il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kasela, qui me fait penser au capitaine Haddock. Vous savez, dans Tintin au Tibet, capitaine Haddock, le lama salue le capitaine Haddock et dit « Sois béni, ou toi dont la foi déplace les montagnes. » Et le capitaine Haddock répond « Il aurait mieux fait de les aplanir. » Voilà, elle aurait mieux fait de les aplanir. Et là, Kasela, il passe son temps à râler. Les montagnes sont trop hautes, la neige est trop froide, les Tibétains sont sales, et la nourriture est infecte. Enfin, il n'arrête pas tout le temps de râler, c'est vraiment le capitaine Haddock. Mais il arrive au Tibet, et ce qu'il raconte est très intéressant. Alors ça, c'est une curiosité, mais il y en a qui sont beaucoup moins. Par exemple, ce livre, Européen et Japonais, traité sur les contradictions et différences de mœurs entre Européens et Japonais, donc écrit par Gerluis Freuch, qui est depuis 30 ans au Japon, parle parfaitement la langue, est interprète, et il a écrit l'histoire du Japon, l'histoire de Saint-François-Xavier au Japon, enfin beaucoup de grands textes, mais là c'est un petit texte bouse des foules, et en 600 aphorismes, il explique en 12 chapitres en quoi les Japonais font toujours le contraire de nous. Et c'est un livre à la Georges Perec, hein, c'est « je me souviens », vous savez, ben c'est un peu ça, les Japonais font ceci, nous on fait ça. Ils disent, alors et parfois c'est très curieux, il dit, alors très joli par exemple, dit les Japonais trouvent les yeux ronds, nous trouvons les yeux ronds et gros, très beaux, les Japonais, eux, ont les yeux fermés du côté des larmes. Donc il dit, au Japon, les femmes peuvent aller où elles le veulent sans demander autorisation de leur mari, chez nous c'est une chose impensable. Au Japon, les femmes savent lire et écrire pour la plupart, en France, en Europe, très peu. Au Japon, nous curons le nez avec l'index, les Japonais, comme ils ont les narines toutes petites, avec le petit doigt, etc. Alors ils parlent des chevaux, des enfants, c'est très très curieux, c'est notre best-seller, préfacé par Lévi-Strauss en plus, et on doit être à la 8e édition, je ne sais plus, mais c'est un texte littéraire étonnant de modernité, est drôle, étonnant, et on apprend historiquement aussi beaucoup de choses. Donc la littérature portugaise, elle a été façonnée par ces voyages. Les grands classiques de cette époque sont finalement des récits maritimes, même si parallèlement, il y avait une poésie classique, des gens qui écrivaient des sonnets, mais il y avait aussi l'Inquisition au Portugal qui bridait énormément la création. Et dans les récits de voyage, ils pouvaient y aller. Alors, c'est la partie la plus intéressante de la littérature portugaise de cette époque. Et elle va rester présente dans les années et les siècles qui viennent. Je disais que le Portugal était un pays de poètes. Oui, Pessoa, Luís de Camões, quand même les deux grandes figures de la littérature portugaise. Mais un test en collection Poésie Gallimard. Vous avez une anthologie de la poésie contemporaine. Et puis, 1, 2, 3, 4 poètes de la seconde moitié du XXe siècle. Donc, il y a 5 livres qui concernent la poésie portugaise de la seconde moitié du XXe siècle. Ben, dans la collection Poésie Gallimard, où il y a à peu près 500 titres, c'est le seul pays qui est aussi présent avec autant de titres. Et ce sont des poètes qui ont eu une très grande importance en Europe, en correspondance avec René Char, avec Michaud, avec beaucoup de poètes. Eugenio de Andrade, Nuno Judis, Antonio Ramos Rosa et Herberto Hilder, qui est la grande figure poétique de la seconde moitié du XXe siècle. Mais le Portugal, c'est surtout, évidemment, de la prose. Et avec José Maria Essa de Queiroz. Alors je vais faire un test. Qui parmi vous a lu un livre d'Essa de Queiroz? Ah, lequel?
Je ne rappelle pas.
Le mandarin? Alves et compagnie? Le cousin Basilio, vous avez lu, oui, à vos livres. Alors voilà. Essa de Queiroz n'était. Quand je suis allé au Portugal en 1982, le Portugal était très peu connu en France. Très très peu. Alors j'étais nommé professeur au lycée français Charles Lepierre, professeur de biologie. Je suis allé dans une librairie pour acheter des livres sur le Portugal et des livres de littérature pour connaître le pays. Il n'y avait moins de 10 livres disponibles, traduits du portugais ou sur le Portugal à cette époque. Très peu. Ce qui montrait l'inconnaissance que l'avaient les Français de la littérature, donc de la culture portugaise. Des récits de voyage, il n'y en avait pas. Et Essa de Queiroz n'était pas édité. Il y avait un livre de Pessoa, de Torga, très peu de choses. Et ça correspondait aussi au fait que le Portugal sortait d'une longue dictature salazariste, un pays fermé. C'était une sorte d'Albanie de l'Europe occidentale, hein, dont on ne savait pas grand-chose, sauf que grâce au Porto Cruz, les femmes étaient en noir. Bon. Et puis, on connaissait le Portugal par les Portugais, mais les Portugais immigrés, qui, fuyant la misère économique, mais aussi la conscription pour les guerres coloniales, hein, de 1961-1974, sont venus en France, à une époque assez glorieuse pour la France, mais eux quittaient des maisons en pierre, où ils étaient pauvres, mais pour s'entasser dans des bidonvilles et construire les maisons des Français. Ce qui était assez douloureux, vécu assez douloureusement à juste titre. Et comme d'habitude, les Français voyaient des gens, bon, qui travaillaient beaucoup, qui étaient des immigrés, beaucoup venaient du Nord, étaient des fils de paysans, parfois d'alphabètes, mais des gens qui n'étaient pas particulièrement communicatifs, peut-être, ils travaillaient, et les Français pas très curieux. Et ça a duré un certain temps. Et c'est vraiment avec l'édition massive de livres de Fernando Pessoa, l'ouverture au tourisme, la découverte de Lisbonne, que les choses ont changé peu à peu. Pour vous raconter une anecdote qui montre cette méconnaissance du Portugal que l'on avait quand on était jeune, c'était, j'ai une amie qui portugaise, qui avait un poste important, la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, elle est arrivée à 25 ans, elle a épousé un Français, un grand ingénieur du son français, un des meilleurs qui existent en Europe, et ils formaient un très beau couple, et ils étaient invités dans un milieu qui était cultivé, qui n'était pas un milieu d'abrutis, et de gens curieux, ouverts au monde, et mais qui ne connaissaient pas le Portugal. Et quand elle allait à des dîners, où elle était très remarquée, on lui disait « Mais madame, vous êtes portugaise, j'adore le Portugal, mon jardinier est portugais, mon chauffeur est portugais, j'ai ma femme de ménage qui est portugaise, ce sont des gens charmants, puis très travailleurs, qui se plaignent jamais, etc. » Et les gens disaient ça gentiment, hein, parce qu'ils connaissaient que ça du Portugal, et en effet, ils avaient bon rapport avec leurs employés. Et à la fin du repas, toujours, ça ne ratait pas, comme elle parlait parfaitement français, elle parlait quatre langues parfaitement, à part ça, mais on lui disait, mais chère madame, vous parlez un français parfait. Comment se fait-ce? Et elle répondait toujours, oui, dans notre famille, nous avons toujours eu des bonnes françaises. Alors là, soudainement, les gens comprenaient, en effet, qu'elle venait d'un pays, qu'elle était d'un pays de haute culture, et que vraiment, il y avait des choses qui avaient échappé. Alors, c'est vrai que l'édition, les films, les livres, le tourisme ont ouvert le Portugal, et on s'est aperçu que c'est un pays extrêmement riche, et riche, entre autres, en littérature. Entre autres, José María Essa de Queiroz, il est mort à 55 ans, à Neuilly, où il a une statue récemment, avenue Charles de Gaulle, et où Jorge Luis Borges considérait que c'était le plus grand des romanciers européens. Il avait une fascination, Borges, pour cet auteur. Et en effet, c'est un des très grands d'Europe. Il a publié plusieurs romans, Les Mayas, qui sont le chef-d'œuvre incontesté de la littérature portugaise, qui se passe à Lisbonne. Bon, il y a une sulfureuse histoire d'amour, mais c'est pas ça le principal intérêt. C'est une vision du milieu intellectuel de Lisbonne, des petites gens Lisbonne, une sorte de Lisbonne décadente. Et c'est un très grand roman sur la désillusion. Ce en quoi je le rapproche de L'éducation sentimentale de Flaubert. Sauf que dans Les Mayas, il y a en plus la légèreté, je dirais presque stendhalienne, un humour à fleur de peau. C'est un livre où on est dans le charme total, dans la lumière de Lisbonne, et c'est vraiment le chef-d'œuvre. Le cousin Basilio, que madame a lu, hein, qui peut faire penser à madame Bovary par certains côtés, puisque c'est une femme qui est séduite par son cousin, qui la laisse tomber, femme mariée, et elle a écrit des lettres, et elle est désespérée, et ces lettres, bien la bonne a mis la main dessus, et l'a fait chanter. Et donc il y a une dimension sociale très cruelle qui s'ajoute à ça, et c'est un très beau livre, avec des passages toujours très drôles. Le crime du Padre Amaro, qui est un de ses premiers, qui est un de ses livres les plus cruels, ou dans un milieu provincial très guindé, un prêtre sans scrupules séduit une fille, lui fait un enfant, et toute la société, lui le premier, va s'arranger pour que cet enfant disparaisse et la fille ne va pas y survivre. Et c'est une vigoureuse dénonciation de l'hypocrisie bourgeoise et des mœurs de l'époque, d'autant plus qu'Essa-t Quéroz lui-même est issu d'une naissance, disons, bâtarde. Sa mère avait eu hors mariage d'un notable, et ce notable n'a reconnu son fils que quand il avait 28 ans. Donc il en a un peu gros sur le cœur, et ça lui a donné tout ce mordant, cette acidité pour décrire les mœurs de son temps. Et puis des livres magnifiques, La vie extravagante de Fradique Mendes, qui est un roman presque borgésien, très drôle, très amusant, où la seconde partie, c'est La correspondance de Fradique Mendes. Alors, le roman, c'est Essa-t Quéroz qui décrit un narrateur qui fait l'éloge de son maître Fradique Mendes. Il a un éloge démesuré. Alors, on ne sait pas très bien si Fradique Mendes est un génie ou un imposteur, c'est assez troublant. Mais après, il y a les correspondances de Fradique Mendes avec des gens connus à l'époque, des historiens, mais aussi des inconnus. Et cette correspondance est très, très drôle. C'est une des bijoux du livre. Et puis, 202 Champs-Élysées, qui se passe à Paris, Son Excellence, le comte d'Abraagnus, qui est très, très drôle. C'est un secrétaire d'un ambassadeur qui fait l'éloge de son maître. Mais emporté par son enthousiasme, il décrit vraiment une crapule qui s'est mal conduit à tous les moments de son existence, mais tout ça dans un enthousiasme, qui est, en gardant son enthousiasme. Piquet Bandry, c'est un recueil de ses articles critiques et satiriques, et c'est absolument désopinant. C'est un immense auteur, c'est les trois premiers, je pense, qu'il faut découvrir, même si tous les autres sont dignes de lecture. Je dirais qu'on commence à s'intéresser à Essa-t Quéroz, on lit tout, à un moment ou un autre. On lit un livre, on en lit un autre, puis un troisième, puis un quatrième. On est happé par la qualité, surtout l'humour, l'ironie extraordinaire de cet homme. Alors j'ai mis en illustration, nous l'avons publié en poche, mais il y a des éditeurs qui ont fait d'autres livres. Et c'est cette statue que vous ne pourrez plus voir à Lisbonne, d'Essa-t Quéroz. Et cette statue, il y a une légende qui dit « Sur la nudité de la vérité, le manteau diaphane de l'imagination. Bon. » Et cette statue en calcaire blanc a fait un peu scandale. C'est sur la place du comte de Quintela, du baron de Quintela. Et le baron de Quintela, qui avait sa maison, sa propriété, juste en face de la place, quand on a érigé ce monument en 1903, a fait murer les fenêtres de ses filles pour qu'elles ne voient pas cette horreur. Voilà. Et c'est vrai qu'encore de nos jours, c'est une statue qu'on n'oserait pas ériger. On a un peu évolué quand même. Alors ils l'ont remplacée. Maintenant, elle est au musée. Ils l'ont remplacée par une statue en bronze qui est beaucoup moins sensuelle, beaucoup moins érotique. Mais il faut dire que celle-là est quand même assez étonnante, avec ce vieux monsieur habillé sur cette jeune fille. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent, paraît-il. Un de ses contemporains s'appelle Camillo Castello Branco, grand romancier, une vie elle-même qui est un roman. Et je mets juste Amour de perdition en haut, qui est un des grands classiques, le titre dit tout, de la littérature portugaise. Hein. Tous les Portugais ont étudié ça. Madame, vous connaissez aussi. Et c'est un roman très très beau, très fort, mais évidemment d'un amour de perdition. Et puis le second, Les Mystères de Lisbonne, vous le connaissez peut-être, parce que Raoul Ruiz a fait un film, et aussi une série télévisée qui est passée sur Arte. Peut-être certains d'entre vous ont vu Les Mystères de Lisbonne, avec une histoire un peu à la Monte Cristo, extrêmement enlevée, et on peut dire que c'est une sorte de Dumas portugais. Enfin, j'arrive à Pessoa. Qui a lu ici des livres de Pessoa?
J'ai oublié,
j'ai oublié. Alors, on lit soit de la poésie, soit le livre de l'intranquillité. Voilà, très bien. Alors là, j'arrive à un terrain connu. Fernando Pessoa est né en 88, il est mort à 47 ans, de cirrhose du foie, pense-t-on. Et il a très peu publié de son vivant, mais quand même, pas mal, dans des revues. Et sa particularité, c'est qu'il a créé une coterie d'écrivains, non pas une série de pseudonymes, mais vraiment des hétéronymes, comme il les appelait, c'est-à-dire des personnalités littéraires, avec leur style, leurs opinions politiques, leur biographie, même leur horoscope, qui écrivaient des œuvres très différentes les unes des autres. Il y avait Alvaro de Campos, le moderniste, Ricardo Reich, le poète néo-latin, et puis Pessoa lui-même qui écrivait, Bernardo Soares qui écrivait le livre, qui était être comptable dans sa biographie, et qui écrivait le livre de l'intranquillité, etc. Et tous ces gens polémiquaient entre eux, de temps en temps, dans les revues, et beaucoup de gens ne savaient pas que c'était des personnalités, que c'était le même écrivain qui était derrière toutes ces personnalités. Bréchon, son biographe, chez Bourgois, a une image et dit, ben, imaginez que dans les années 1940, on vous dise, ben, vous savez, Paul Valéry, Céline, Blaise Cendrars, Apollinaire, ben, c'est le même écrivain qui a écrit leurs œuvres. C'était un peu ça, ce que voulait faire Pessoa. Il n'a pas pu pousser son projet jusqu'au bout, étant très jeune, mais à sa mort, il a laissé 40 000 manuscrits dans une malle. Bon, pour les manuscrits, il y a des manuscrits qui font une demi-page, et puis il y en a qui font 400 pages, comme le manuscrit du livre du Desassossego, qui a été traduit par Livre de l'intranquillité, mais qui n'a été publié qu'en 1982. Et Pessoa, on le connaissait comme poète, un bon poète, mais on ne connaissait pas, on connaissait des bouts de ce journal, mais pas l'intégralité. Et là, ça a été un choc au Portugal. Il a été traduit dans le monde entier, et c'est le livre portugais le plus vendu dans le monde. Aujourd'hui, en France, cette édition du livre de l'intranquillité, ici en bleu, alors qu'il n'y a pas d'édition de poche, est vendue à plus de 150 000 exemplaires. C'est un chiffre énorme pour un livre qui n'est pas... c'est pas Dan Brown, hein, c'est vraiment un livre de journal intellectuel, mais qu'on peut lire par fragments. Il n'y a aucune nécessité de lire dans la continuité. On peut lire comme un recueil de poèmes, choisir des bouts de textes. Il y en a qui sont philosophiques, d'autres poétiques, d'autres drôles. C'est très divers et c'est très beau. Il y a une très belle description de Lisbonne, des états d'âme, de l'ennui, des cieux, de Lisbonne. Enfin, c'est une merveille, ce livre. C'est vraiment un livre de chevet et incontestablement un chef-d'œuvre. Est-ce qu'il y a des... Il y en a parmi vous qui me démentiraient.
Quand vous dites que c'est un livre de chevet, c'est parfaitement ça. Mmh. Ça fait des années que ce livre-là est sur ma table de chevet, et c'est par petite dose, toute petite dose que j'arrive à lire, mais c'est tout à fait ça.
Mmh. Voilà, moi j'ai un Pléiade d'Apollinaire sur ma table de chevet, de temps en temps je vais lire un poème, voilà, mais on peut faire pareil avec le livre de l'intranquillité qui est aussi sur ma table de chevet. Oui. Et pendant longtemps, ça peut jouer qui commence à devenir une montagne, mais voilà. Et ce livre a influencé beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, d'écrivains, qui ont repris le mot intranquillité, qui est une création au départ, pour traduire le désassossego, qui n'a pas d'équivalent en français, mais qui désigne une inquiétude, mais aussi une agitation. Et l'inquiétude était trop pauvre pour traduire désassossego. Donc, on a trouvé ce mot intranquillité que Bréchon a trouvé dans Michaud, et qui était une coquille vide à l'époque, mais qui désigne vraiment tout ce que Pessoa met dans le désassossego, c'est-à-dire du désarroi, de l'inquiétude, de l'ennui, de la mélancolie, de la saudade, tout ça est dans l'intranquillité. Et maintenant, quand on parle d'intranquillité, tout le monde pense à Pessoa. Et dans le dernier Astérix, en Lusitanie, il y a un personnage qui dit. Nous, Portugais, on est, depuis que Viriat, hein, c'est le Vercingétorix portugais, a été défait, nous vivons tous dans l'intranquillité. Voilà. Ils ont réussi à glisser ce mot dedans, et la traduction au Portugal a mis des assossego pour traduire intranquillité. Donc, grande œuvre, et dans notre collection, où on publie Pessoa en bilingue, on a fait ces deux livres très importants. J'ai demandé à Patrick Quillier, qui dirigeait le le Pléiade avec l'œuvre poétique complète de Pessoa, de faire un petit livre pour découvrir Pessoa pour les gens qui ne connaissent pas. Et je lui dis, tu me fais 10 pages de préface pour expliquer en quoi c'est un génie, et tu fais un échantillon des principaux hétéronymes, dont Bernardo Soares, et bilingue, court, pour les gens qui veulent découvrir, juste leur mettre le pied à l'étrier. Donc il a fait ce petit livre qu'on appelle Anthologie essentielle. Et puis ce livre s'appelle Lisbonne revisité, et une réaction à un livre qu'on trouve partout, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires dans le monde entier, qui est un texte en anglais, trouvé dans les papiers de Pessoa, annoté de sa main, qui s'appelle Lisbonne, What the Tourist Should See, et qui est présenté comme un texte de Pessoa. Quand j'ai parlé au traducteur anglais de Pessoa, il me dit « c'est pas un texte de Pessoa, ça, c'est pas son style ». Il n'y a rien qui rappelle le style de Pessoa. C'est pas lui, c'est un texte qu'on lui a confié, qu'il a annoté, mais comment on l'a retrouvé dans ses papiers? On l'a publié. Bon, tout ça, sous son nom. Ça ne serait pas grave si ce texte n'avait aucun intérêt. C'est un texte d'une platitude totale. Parfois je dis, c'est Pessoa a créé un hétéronyme inepte. Sot. Donc, les gens achètent, ben, Lisbonne, Pessoa, ils achètent, ils disent, oui, bon, c'est pas terrible. Donc nous, par réaction, on a fait ce livre avec les plus beaux poèmes et textes de prose ou lettres de Pessoa sur Lisbonne. Et je vous assure que c'est autre chose. Voilà. Avant d'abord de converser, est-ce que certains connaissent ce livre de Ferreira de Castro qui s'appelle « Forêt vierge » ? Alors ça, c'est personne n'a lu. Encore un livre à découvrir après Sade Queiroz. Vous avez de la chance, moi j'aimerais bien avoir Sade Queiroz à découvrir. Ferreira de Castro, c'est un homme qui a eu beaucoup de succès juste avant et après la guerre, et notamment par un livre Forêt vierge, où il raconte son expérience en Amazonie de seringueiro, de personnes donc qui recueillaient le latex des arbres à caoutchouc, et il a fait un livre extraordinaire sur l'Amazonie, les conditions de vie de ces cueilleurs de ces recueilleurs de latex. Et c'est un des plus beaux livres, les plus forts sur l'Amazonie. Il s'appelle La Selva en portugais. Et il a été traduit en 1938 par Blaise Cendrars, qui a une connaissance approximative du portugais, mais qui en a fait du Blaise Cendrars. C'est-à-dire que c'est l'exemple même de la traduction infidèle, mais géniale. Et la qualité de plume de Blaise Cendrars fait que ce livre a un succès considérable en France, et qu'à l'étranger, tout le monde s'est intéressé à ce livre, et donc il a été traduit dans 30 pays. Et c'est un bon auteur, mais Blaise Cendrars a mis sa patte, et c'est pour ça qu'il a été si connu dans les années 50, et après la France a publié chez Grasset à peu près toutes ses œuvres, qui sont quand même un peu moins intéressantes que ce livre qui reste une merveille. Vous voulez qu'on fasse une pause, hein, que quelqu'un a une question à poser? Là, j'ai préparé plein de diapositives, mais je ne vous en montrerai que quelques-unes, je les montrerai rapidement. Parce que maintenant, c'est vous qui allez me guider pour aller par là, ou non pas par là, mais par là. Et j'ai quelques noms à vous montrer. Miguel Torga, grand auteur du nord du Portugal, et Agostina Bessa-Luís, grand auteur femme de Porto. Et puis Lydia Georges, que je crois vous appréciez beaucoup.
Et peut-être que vous pouvez nous dire un mot aussi des auteurs qui ont parlé de la révolution des œillets, pour faire un petit écho à ce qui...
Oui, d'accord.
Ça va être vite. Des femmes.
Des femmes, oui. Des femmes. Oui.
Des femmes.
Et beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup. Enfin,
est-ce qu'il y a eu, par exemple, des Angolais,
oui,
qui ont écrit en portugais?
Alors ça, j'en parlerai peut-être à la fin. Il y a un auteur angolais qui est assez connu, très populaire, qui s'appelle Agualusa, qui est publié par Métellier, et qui a fait des très, très bons livres de lecture assez faciles, dont la théorie de l'oubli.
Ou les Brésiliens.
Oui, alors les Brésiliens, alors là, c'est une autre conférence. Oui. Là, si j'ouvre la porte Brésil, c'est l'avalanche, hein, qui déboule dans cette salle. Mais j'en parle un petit peu à la fin. Patience. J'y arriverai. Alors sur la révolution, oui. Tout ça pour dire que le Portugal, dès le début, la littérature a été très liée à son histoire maritime. Et après, pendant la période salazariste, pendant la dictature en 1928 à 1974, il y aura le développement d'une littérature néo-réaliste On ne pouvait pas parler politique, mais on pouvait dénoncer la réalité sociale et ainsi faire une critique politique feutrée par le biais du néo-réalisme, de la description de la vie des gens. C'est ce qu'a fait Miguel Torga, qui est le grand auteur du Nord. Alors, c'est un homme donc aussi dont la vie est un roman, puisqu'il est né dans le Trás-os-Montes, la région du Nord-Est, la plus reculée, et on disait arriérée, du Portugal. Et il est parti à 13 ans au Brésil, il a servi dans les plantations de cacao, puis il est revenu, et puis en autodidacte, il est devenu médecin. Il a été médecin toute sa vie, tout en publiant à compte d'auteur, pour échapper à la censure, ses œuvres. Et c'est sûr que son plus grand livre, c'est « Les Contes de la montagne », c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature portugaise, ou Madame qui opine. Vous êtes du Nord, peut-être. Ben oui, et vous êtes du Nord, peut-être. Oui, ben voilà. Quand on est du Nord, Torga, c'est l'écrivain national. Et alors, ces contes de la montagne, c'est 45 nouvelles, un peu à la Maupassant, c'est-à-dire parfait, pas un mot de trop, et qui racontent la vie de ces gens du Nord, et notamment de ces femmes du Nord. Et il a un très beau mot pour expliquer que les femmes du Nord, ben c'est une terre d'émigration, le Nord. Ça a toujours été, quand ça va mal, sécheresse, les hommes émigrent en Galice, parfois plus loin, laissent les femmes à la maison, qui s'occupent des femmes, de la religion, des animaux, de tout, et d'elles-mêmes parfois, et puis qui tiennent tout, qui tiennent la maison. Et il parle très bien de ces femmes qui, alors son expression, qui dit qu'au beau milieu du plaisir d'amour, deviennent veuves d'un mari bien vivant parti de l'autre côté de la mer, et qui parfois fondent un foyer de l'autre côté de la mer. Et il y a une description de ces vies de femmes tout à fait admirable. Il faut savoir qu'au Nord, être une femme du Nord, ça a un sens au Portugal. C'est une société matriarcale où les femmes tiennent la maison, sont des femmes très très fortes. Dans toute la littérature, les femmes du Nord sont des femmes admirables. Torga les décrit de manière magnifique, mais aussi Agustina Bessa-Louise, dont je dirai un petit mot après. Et il a écrit La création du monde chez Garnier Flammarion, qui est son autobiographie, qui est aussi passionnante. Alors ça, c'est le grand auteur du Nord, avec des nouvelles, il parle du Dorou, dans Vendange, c'est un homme qui a toujours publié à compte d'auteur. Alors, au début, c'était pour échapper à la censure, parce que Salazar n'aimait pas cette description de la misère portugaise. Mais au compte d'auteur, en vendant 100 circuits commerciaux, eh bien, il a réussi. Puis il trouve... Alors, à la fin, il avait un peu changé. Il ne voulait pas être édité par des vrais éditeurs, parce qu'il trouvait qu'il gagnait beaucoup plus d'argent en publiant soi-même. Puis ça a participé à sa légende de celui qui résistait. Il avait fondé sa propre imprimerie. Et en effet, ça fait partie du personnage. Et Agustina Bessa-Louise, voilà, il y a des gens qui ont lu. Alors, c'est une femme extraordinaire. Alors, en regardant, je trouve qu'elle ressemble à Tati Daniel. Mais non, non. Mais elle avait un très sale caractère aussi. Hein. Je l'ai connue, elle était très très drôle, mais d'un mordant, d'une méchanceté incroyable, mais très très drôle. Et alors, elle a écrit, alors c'est une femme de bourgeoisie, de Porto, et elle a écrit un roman qui s'appelait La Sibylle, qui est description extraordinaire d'une femme quasi analphabète, qui exerce une véritable fascination sur ses maîtres, sur son entourage, une femme très dure, hein, qui tient tout. La manière du Nord, où tous les personnages masculins, pendant toute l'œuvre de Bessa-Louise, sont falots, effacés et ou absents. Et elle l'a écrit sous le nom de son mari. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, pour une femme, d'écrire un roman. Dans la société de Porto, c'était une chose mal vue, une société très guindée. Le problème, c'est qu'elle a eu, ce livre a eu un prix. Et donc, quand le prix a été remis, on a appelé Monsieur Bessa-Louise, et puis on a vu une petite femme se lever et dire « Non, non, c'est moi qui l'ai écrit. » Ah bon. Et puis après, elle a signé une cinquantaine de livres sous son nom, et c'est elle qui parle le mieux de ces femmes du Nord, de la vallée du Douro. Et elle a servi aussi de scénariste, enfin, c'est Manuel de Oliveira, ce cinéaste qui a filmé jusqu'à l'âge de 106 ans, utilisait souvent les récits, les textes de Bessa-Louise pour ses films. Donc, grande personnalité du Nord. Alors, on va arriver en effet vers la Révolution, avec quelqu'un comme José Saramago, ça vous connaissez tous le nom. Qui a lu des livres de José Saramago ? Un, deux, trois, quatre, un peu, oui. Ça vous permet de les relire. Alors, il a eu le prix Nobel. Alors, je ne sais pas quel livre vous avez lu de José Saramago. L'année de la mort de Ricardo Reich, peut-être, oui. Le Dieu manchot, oui, qui est le livre qu'il a fait connaître au monde, le titre portugais, c'est Mémorial du Convent. Comment ?
Le radeau de pierre.
Le radeau de pierre, oui. L'aveuglement, oui, dont il y a eu un film, en effet. Alors, c'est un romancier qui... Alors, c'est le seul portugais qui a eu le prix Nobel. Le seul écrivain portugais et le seul écrivain de langue portugaise qui a eu le prix Nobel. Pas eu de brésilien, ça a des lacunes. Mais enfin, lui, il a réussi. Il y a un autre prix Nobel portugais qui est un médecin qui s'appelle... Oui, c'est ça. Mais ils n'aiment pas trop en parler, puisque c'est celui qui a développé les techniques de trépanation pour soigner les... Alors, il a eu le prix Nobel en 1949, je crois. Et c'est lui qui a développé les techniques de trépanation pour soigner ceux qui avaient des problèmes, des maladies mentales, mais aussi l'homosexualité. Alors ça, on le dit moins, et du coup, c'est un prix Nobel qui est un peu gênant pour les Portugais, et on préfère l'oublier, parce que c'est... Il a fait beaucoup de dégâts. Mais en littérature, c'est Saramago. Alors, on a un type de littérature, on le rattache au mouvement du réalisme magique, et entre autres, là, le radeau de pierre est typique de cet style où il imagine la péninsule ibérique se détacher des Pyrénées, puis voguer, et puis aller s'installer dans les voisinages du Brésil. Vous avez senti qu'on est dans une forme de fantastique, mais en même temps, il y a une fable politique, toujours dans les livres de Saramago. Il y a quelque chose de politique, il y a un discours philosophique, politique, il y a une idée. Il construit beaucoup ses livres autour d'une idée. Par exemple, l'aveuglement, il imagine que tout le monde devient aveugle, sauf une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on étudie. L'année de la mort de Ricardo Reich, c'est un de ceux que j'aime beaucoup, parce qu'il imagine qu'un des hétéronymes de Pessoa, Ricardo Reich, le poète néo-latin, que Pessoa avait envoyé au Brésil un moment, ben revient du Brésil après la mort de Pessoa, et c'est un très beau livre sur la Lisbonne du temps de Salazar, juste avant la guerre, un livre très mélancolique, extrêmement beau. Le Dieu manchot, c'est le livre qu'il a fait connaître. Il avait plus de 60 ans, avant il a fait quelques livres qui n'avaient eu aucun succès, et il l'a fait connaître dans le monde entier. Alors, c'est un grand roman baroque qui se passe au 18e, avec l'Inquisition, la sorcellerie, une grande histoire d'amour, l'histoire d'édification du couvent de Mafra, un couvent qui a des façades de 235 mètres de large. Et c'est ça qu'il a fait connaître. Alors, c'est un écrivain, pour le définir, qui écrit toujours, pratiquement toujours, d'une manière un peu extérieure à l'action qui se passe. C'est-à-dire, il ne se met pas dans le livre. Il n'écrit pas, il ne s'engage pas. Il écrit, il prend un thème, il le développe, mais lui se retire. Il est un peu absent. Il décrit des histoires assez différentes, mais il n'apparaît pas trop comme intervenant. C'est un écrivain, donc, où il y a cette distance avec ce qu'il écrit. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est le contraire de Lobo Antunes. Il se met corps et tripes et âme dans ses livres. Et donc, on les oppose souvent, parce qu'en effet, il y a des gens qui ne supportent pas Lobo Antunes, parce qu'on est trop dans l'autofiction, dans quelque chose de douloureux, de personnel, de charnel, et ils préfèrent des choses un petit peu plus... on est un peu à distance de la souffrance, et on décrit une histoire un peu fantastique, un peu étonnante, avec, il le fait avec talent, mais où on n'est pas impliqué, disons, moralement dans l'histoire. Donc il y a deux types de lectorat, vraiment, pour ces deux auteurs. Alors, vous me contredisez ici, mais Saramago est plutôt lu par des femmes, et Lobo Antunes par des hommes. Mais là, il y a beaucoup de lectrices femmes qui aiment beaucoup Lobo Antunes, et je vous félicite, parce que c'est pas toujours évident. On est dans un monde d'hommes, hein, Lobo Antunes, un monde violent, un monde terrible, de la guerre, de la folie. Et les femmes ont des très beaux portraits de femmes, mais pas toujours. C'est plutôt la c'est l'Angola, c'est les traumatismes des guerres coloniales, on va y venir. Alors, Saramago a eu le prix Nobel, et tout le monde avait expliqué à Lobone Tounès, son éditeur bourgeois, que c'est lui qui allait avoir le prix Nobel. Et Lobone Tounès s'en fichait un peu, mais avec son éditeur français bourgeois qui lui dit « tu vas avoir le prix Nobel, tu sais, je sais influencer le jury », ben, il a fini par y croire, Lobone Tounès, dit « après tout, pourquoi pas ?» Et avec un ami éditeur, on s'était dit dès le début, il ne l'aura jamais, Lobone Tounès. Il ne l'aura jamais. Et il ne l'a jamais eu. Et je sais que le jour du prix Nobel, je connaissais une amie de Lobone Tounès, il venait de rompre avec cette fille, et qui lui a écrit une lettre de désespoir à la suite de cette séparation. Et il me dit, et cette histoire du Nobel qui me tombe dessus en plus. Et c'est vrai que le jour où Saramago a eu le Nobel, il y avait des affiches, Saramago prix Nobel partout, il y avait une affiche juste en face de sa maison, donc il voyait. Et il y avait cru, alors qu'il ne pouvait pas avoir le prix Nobel. Et là, j'arrive à Lobone Tounès, qui est un des survivants de toute cette génération, il est en très, très, très extrêmement malade. Et. Alors, je n'ai pas besoin de vous le présenter, parce que la plupart le connaissent, mais c'est un homme qui a fait la guerre coloniale, comme psychiatre, médecin. Bon, il a plutôt amputé des membres que soigné des âmes blessées. Il en est revenu quand même très traumatisé, et toute son œuvre est hantée par la guerre coloniale, par les horreurs qu'il a vues, par aussi la folie. En tant que psychiatre, il y a été confronté, et tous ses livres, finalement, tournent plus ou moins autour de ces thèmes. La folie des hommes, les dérives des militaires, les familles fracassées par les guerres, l'exil. Et lui, il se met complètement dedans. On sent que c'est lui qui souffre et qui fait sienne ses douleurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et donc, c'est une écriture, on est plongé, aspiré dans ce tourbillon à la fois historique, et c'est extrêmement prenant.
Et c'est poétique.
C'est une langue magnifique. Il a une manière de décrire soit les horreurs, soit le désir
sexuel. Les lettres à sa fiancée.
Ah oui, alors, les lettres à la fiancée, il ne pensait pas les publier. Hein. Il était en Angola, il a écrit à sa femme, et il a écrit des lettres où il raconte quand même sa vie. Alors ça, c'est un autre style, c'est pas littéraire, il ne pensait pas que ça serait publié. Et c'est sa fille qui a voulu les publier. Et à juste titre, parce que c'est des lettres magnifiques. Mais on est en dehors, c'est les lettres de la guerre, le livre s'appelle comme ça. C'est pas une œuvre littéraire au sens propre, c'est vraiment une correspondance qui ne devait pas être publiée. Et alors, il faut lire les premiers livres pour commencer, il me semble. Mémoire d'éléphant, Connaissance de l'enfer, Le cul de Judas, qui est peut-être son livre le plus caractéristique, où il y a tous ces thèmes dedans. C'est un livre qui n'est pas très bien traduit, mais qui reste quand même très très prenant. D'abord, le titre portugais, c'est l'écu de Judas, qui désignait à la fois les impasses, les trous perdus, mais aussi les traîtres, les Africains qui étaient retournés par les Blancs. Et donc ce titre, déjà, il y a un problème. Mais bon, c'est peut-être le livre qui donne accès à Lobone Tounès, parce qu'il n'est pas trop long. Il y a le thème de la guerre, de la folie, des amours fracassés, tout ce qu'on va trouver dans Lobone Tounès. Et ça permet d'accéder aux autres avec plus de facilité. L'exhortation au crocodile, c'est un livre sur la contre-révolution. On va y venir, sur la révolution. Il n'y a pas de livre sur la révolution dans la littérature portugaise. Il n'y en a pas. Mais sur la contre-révolution de 1975, il y a ce livre, l'exhortation au crocodile. Il y a des livres sur la révolution, mais qui est évoqué. Qui est en toile de fond, comme chez Almeida Faria ou le Cardoso Pires.
Sur l'exil, non ?
Alors, l'exil, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Et, mais sur la contre-révolution, il y a l'exhortation au crocodile. Et j'ai mis en quatre La splendeur du Portugal, qui est pour moi peut-être un des plus extraordinaires de Lobone Tounès, un des plus réussis, car ça se passe en Angola. C'est une mère et ses trois enfants qui évoquent l'Angola, les grandes propriétés qu'ils avaient, la guerre coloniale et ses horreurs, la guerre civile, la mère est restée en Angola, et tout ça est dans une sorte de tourbillon, ce qu'on appelle chez Lobone Tounès et chez d'autres auteurs, ce flux de conscience qui qui passe dans la plume où le passé, le présent se mêlent, l'évocation de la famille, la douleur, le désir, dans une sorte de... comme s'il transcrivait une pensée complexe et multiple en permanence dans son livre. En effet, une écriture qui est absolument remarquable. Il faut le lire en s'installant. On ne peut pas le lire en picorant, typiquement. Il faut s'installer, avoir du temps, ne pas couper le téléphone et se plonger dedans. Et si on se plonge, en effet, on se rend compte que c'est une œuvre extraordinaire. Il y a d'autres auteurs hein, comme ça où il faut se plonger. Je pense à James Joyce ou je pense aussi à Proust. Hein. Si on ne se plonge pas dedans, on peut passer complètement à côté. Le Bon Antunes, oui, il faut s'immerger dedans. Alors, les derniers livres de Le Bon Antunes sont de plus en plus gros. Il y en a un où c'est une seule phrase sur 700 pages. Et qui décourage un peu les gens, surtout les gens qui découvrent Le Bon Antunes. Si on a lu les premiers livres, oui, on peut accéder à ces livres parce qu'on retrouve son univers. C'est vraiment un écrivain qui a son propre univers, et ça c'est très très fascinant. Et on retrouve tous les éléments de son univers. On a besoin d'une initiation par les livres plus simples. Il y en a un qui est assez amusant, c'est Le Retour des Caravelles. Où il imagine le retour des rapatriés d'Afrique, mais il y en a, avec les rapatriés. Ben, il y a Vasco de Gama, il y a tous les grands découvreurs qui reviennent, qui sont les uns tenanciers de bordel, des ivrognes, etc. Et c'est un livre très amusant sur la décolonisation. Il y a des livres comme ça un peu plus drôles. Mais La Splendeur du Portugal, le premier trait d'humour, il arrive page 387. C'est très éprouvant. Mais en effet, on est saisi par la beauté et la force de cette évocation. J'ai trop parlé. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je veux bien un verre d'eau, oui. Comme il y a beaucoup qui ont lu Le Bon Antunes, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette lecture que vous avez faite ?
Moi, j'en ai en effet de
très longtemps,
facile à lire, et d'autres beaucoup plus difficiles.
Oui.
Mais bon, c'est vieux.
Hein. Si on n'est pas très concentré, on s'attend des mains très vite. Ah oui, alors, j'ai mis les chroniques de... Parce que à côté de ces romans très denses, très sombres, il faut bien le dire, il écrit des chroniques pour les journaux, et là, il se défoule, c'est des chroniques très, très drôles, où il se tourne en dérision, plein d'humour, où il parle de la réalité portugaise, de lui, il se décrit à un salon du livre, et tout ce que les gens lui demandent, c'est vraiment très, très drôle. C'est très... Quelqu'un veut parler de Bon Antunes? Donc les chroniques, il y a beaucoup de gens qui lisent que les chroniques. C'est drôle, c'est très inattendu. Et on comprend mieux le Bon Antunes quand on lit les chroniques. Alors, pourquoi il n'aura jamais le prix Nobel? Pourquoi il ne l'aura jamais? Je le disais déjà avec un ami éditeur il y a très longtemps. Vous savez que le prix Nobel, le premier prix Nobel, vous savez qui a eu le premier prix Nobel dans le monde? 1905, 1908, je ne sais plus. Sully Prudhomme, oui. Et savez-vous, donc Sully Prudhomme, hein, je ne sais pas qui a lu Sully Prudhomme, je pense plus Katson. Et est-ce que vous savez quels étaient les concurrents de Sully Prudhomme? Tolstoï et Ibsen. Et qu'il a eu, parce que dans la définition du prix Nobel, il fallait donner une valeur positive à l'humain, à l'humanité, et il jugeait que Tolstoï donnait une vision dégradante de l'humanité, et trop triste et trop pessimiste. Voilà. Ben, ils en sont toujours là. Il y a cette idée que c'est des livres, on publie des œuvres humanistes, mais toujours qui donnent une idée positive de l'humanité.
C'est sûr, quand il parle du cygne, Sully Prudhomme, c'est
oui.
Particulièrement
bon,
c'est une poésie d'école, quoi.
Oui, c'est une poésie d'école. Je vous félicite d'avoir lu Sully Prudhomme. Je pense que vous êtes la seule dans cette salle.
Vous savez qu'à Marly, il y a des très bons lecteurs.
Il y a des très bons lecteurs, oui, je vois. Et donc, pour le monde Tounès, qui fait une œuvre très humaniste, mais qui a une vision complètement sombre de l'humanité, des gens qui sont voués soit à la folie, au crime ou à la destruction, c'était impossible par définition qu'il ait le prix Nobel. Ça ne correspond pas au cahier des charges du prix Nobel. Donc c'était impossible dès le départ. Et beaucoup de gens, le Bourgeois, lui racontant des salades, là...
L'année prochaine, peut-être ?
Non, je crois... Non, je crois. Alors là, si je... S'il a le prix Nobel, je... Je ne sais pas ce que je ferais, mais je... Je viendrai m'excuser auprès de vous. Et dans cette génération, il y a Lydia George, hein, que vous avez lu, je crois, apprécié. Miséricordia, l'année dernière, a eu le prix Médicis étranger. Et c'est un beau livre, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici, vous. Bon, si je vous raconte l'histoire, ce n'est pas très attrayant, ça se passe dans un EHPAD, c'est des femmes âgées qui sont dans un EHPAD. Et bon, mais c'est un livre très joyeux, très drôle sur la vie et très très réussi. Là, très humaniste, là, elle pourrait avoir le prix Nobel pour ce livre, très positif. Et ça couronne aussi son œuvre. Moi, il y a un livre qui me fascine, c'est « Le rivage des murmures ». C'est un livre où elle a accompagné son mari à la guerre au Mozambique, et les femmes des officiers restaient dans les hôtels au bord des plages pendant que leur mari partait en mission. Et elle décrit dans ce roman comment ces hommes, qui étaient tendres, civilisés, cultivés, intelligents, dans le roman il est professeur de mathématiques, devenaient au contact des combats de véritables bêtes féroces et se transformaient peu à peu en égorgeurs. Donc ce regard des femmes sur ces maris que la guerre transforme est assez saisissant parce qu'il est tout à fait réel. Les hommes au contact de la guerre se transforment en bêtes féroces, même les gens les plus civilisés. Et c'est un très très beau roman qui parle de ça. Toujours, et tous ces romans, c'est toujours une réalité, toujours très portugaise, le ventisile dans les grues, on parle des migrations capverdiennes, mais vu toujours réfracté par un regard de femme. Donc réalité portugaise, regard féminin, et toujours en prise avec l'actualité. Et c'est là, c'est une autrice, comme on dit maintenant, qui est très lue au Portugal. Elle est professeure de français, dont elle a été, donc elle parle très bien français, elle vient souvent en France où elle est très, très appréciée. Et ça fait partie, avec les deux noms, des grandes figures de la littérature portugaise de cette génération. Il y en a eu d'autres, ils ont un peu disparu, on en parle moins. Alors, j'avais... maintenant, il faut converser avec vous. Je vous montrerai rapidement ce que j'avais prévu, puis on ira... d'un côté ou de l'autre, où je répondrai à des questions. Je voulais vous signaler « Ecuador » de Miguel Sosa Tavares, que c'est un grand roman épique d'aventure, comme il n'existe pas beaucoup au Portugal.
Non, pardon, elle a été... Les femmes qui chantent, c'est bien...
Oui, j'ai pas mis le titre, c'est les, il y a les femmes qui chantent.
Oui, oui.
T'es sûr le 25 avril, hein, il me semble.
C'est un peu.
Enfin, ça en parle un peu. Pour revenir au 25 avril, c'est toujours une toile de fond. Elle en parle un peu dans Nous combattons l'ombre, mais c'est pas le sujet principal. Il n'y a aucun roman qui se déroule pendant le 25 avril. On est toujours après le 25 avril, alors là, les conséquences. Je pense à Alexandra Alpha, bon, c'est la vie d'une femme après le 25 avril, où tout s'est effondré, comment elle se reconstruit. Mais il n'y a pas de romans qui ont pour théâtre le 25 avril.
Comment vous l'expliquez ?
Parce que c'est un... Alors je ne sais pas, je dirais comme ça, à brûle-pourpoint, c'est un événement tellement fort, tellement ancré, qu'il n'y a pas besoin de faire un roman pour en parler.
Elles le vivent.
Elles le vivent, c'est très présent dans l'esprit de tout le monde, c'est commémoré. Un roman, souvent, ça permet d'explorer des zones inconnues, par exemple la guerre coloniale, qui est toujours sont des épisodes dont on parlait peu, que l'on taisait, il y avait des morts, des choses atroces. Et le grand succès de tous ces auteurs, de Tounès, en France, c'est qu'il a parlé de la guerre coloniale. Il a exorcisé les démons de la guerre coloniale. Tandis qu'en France, il y a eu très peu d'écrivains qui ont pu faire des grandes œuvres, des grands romans, qui ont exorcisé la guerre en Algérie, par exemple. Donc, il a eu un grand succès en France parce qu'il a parlé, d'une certaine manière, de la guerre coloniale, des horreurs qui s'est déroulée, des deux côtés d'ailleurs, avec une grande force. Et ça, ça a plu au public français. Il y avait un manque dans ce domaine, et d'où le succès de ses premiers livres qui évoquaient cette guerre dans les colonies.
Mais pas au Portugal.
Si, au Portugal aussi. Mais au Portugal, c'est différent, c'est les militaires qui ont mis fin à la guerre coloniale et qui ont déclenché finalement la révolution. Donc le rapport à la colonisation est différent, puisque c'est la République qui a fait table rase d'une certaine manière de la colonisation, et donc le rapport évidemment est différent. Ce qui est différent, c'est qu'il y a eu à peu près 800 000 rapatriés d'Angola et de Mozambique et de Guinée, et que ces rapatriés ont été très bien accueillis au Portugal et se sont fondus dans la population et même ont participé au dynamisme du renouveau du Portugal, contrairement à ce qui s'est passé en France, où les rapatriés étaient des choses un peu honteuses, etc. Vous connaissez le sujet. Et donc il y a beaucoup de livres qui parlent de ce retour des rapatriés. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais Dulce Maria Cardoso, par exemple, dans un livre qui s'appelle Le Retour, décrit sous les yeux d'un enfant cette arrivée sur les quais, comment ils sont reçus. Et beaucoup d'autres auteurs, je vous parle au moins d'une, en parlent aussi d'une manière étonnante. Comme pratiquement, il y a eu quelques livres en France, mais il n'y a pas eu de grands écrivains, d'écrivains très connus, qui ont fait un grand livre sur les conséquences de la guerre d'Algérie. Il y en a eu partiellement ici et là, mais il n'y a pas eu de grands écrivains qui ont parlé de ça, comme les grands écrivains portugais en ont parlé. Et d'où leur succès en France. Et Lobo Antunes a beaucoup eu de succès à partir de ça.
En France, c'était pratiquement un déchirement, en fait. Tandis que là-bas, c'était...
Alors, c'était un déchirement aussi, mais ça s'est passé différemment. C'est-à-dire que les Portugais ont commencé à coloniser au début du 20e, à la fin du 19e. Ils étaient moins nombreux. Oui. C'était énorme. Et ils quittaient leur propriété. Ils aimaient l'Afrique. Hein. Certains sont restés, d'ailleurs. Et
en France, ça, c'est pratique. Qui était...
Tout à fait. Les conditions.
Et puis beaucoup antérieures, de 1800 et quelques, toutes les générations.
Oui, bon, je ne vais pas parler de la guerre d'Algérie et d'Algérie. La France, c'est très différent, en effet, des colonies portugaises, mais surtout parce que ce sont les militaires qui ont libéré les colonies, finalement, et qu'en France, les militaires ont fait un putsch. Donc. C'est aussi un peu... Il y a plein de choses qui ne correspondent plus.
Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, 800 000 personnes qui ont été... sont revenues autour... Ce qui est assez étonnant, c'est que 800 000 personnes ont été, enfin, sont revenues au Portugal, et en France, c'était pratiquement autant. Et en fait, il n'y a pas eu de souci pratiquement d'intégration là-bas. Alors qu'ici, ça a été une histoire qu'on entend jusqu'à maintenant, pratiquement.
Et avec les colons blancs, enfin, qui étaient plutôt métissés d'ailleurs, sont revenus aussi beaucoup de noirs des colonies, mais ils n'étaient pas traités en harkis, qu'on a parqués en France, qui étaient la honte à la fois de la France, enfin, les victimes totales de cette guerre. Non, c'est extrêmement.
Très, très différent.
Très, très différent, mais en même temps, les textes de Lobo Antunes sont plus vraiment. C'était un besoin dans le lectorat français qu'on parle de la guerre coloniale et dans les termes où il en a parlé. Et du déchirement des colons, mais aussi des horreurs que subissaient les colons, que les colons faisaient subir aux Noirs. Enfin, on a ça dans Lobo Antunes. On a une complexité qui n'est jamais démentie. Et dernier écrivain que je voulais vous parler, une femme, Isabelle Figueiredo, qui est actuellement, qui connaît énormément de succès. On vient de publier son dernier livre, Un chien au milieu du chemin, qui est réédité au bout de 15 jours. Et elle a fait 3 livres, Carnet de mémoire coloniale, La Grosse, Les deux premiers sont un peu autobiographiques. Et le troisième, Un chien au milieu du chemin, qui est assez différent. C'est un très, très beau livre, un livre assez positif, assez beau. Carnet de mémoire coloniale a été souvent primé en France, à l'étranger. C'est un livre assez court et il parle un peu de ce dont parle Lobo Antunes dans La splendeur du Portugal, dans les souvenirs de la colonie. Mais simplement, elle a quitté le Mozambique à 9 ans. Et elle a le souvenir de la guerre, de ce qui se passait, de la violence. Elle ne comprenait pas très bien à l'époque, mais elle a été exfiltrée. Elle est arrivée au Portugal, elle avait 9 ans. Et c'est un livre d'une femme mûre qui se souvient du Mozambique et qui décrit la violence qu'elle comprend maintenant. Elle a vu des choses horribles, faites par les colons, faites par les rebelles. Et surtout, c'est la figure du père qui est fascinante. Qu'elle se rend compte que son père, qu'elle adore, et son père l'adorait, ils ont un rapport merveilleux tous les deux. Elle se rend compte maintenant que son père était un colonialiste, raciste, brutal, tout ce qu'elle déteste politiquement, et une sorte de monstre. Mais elle l'aime. Et c'est un livre très très beau sur l'ambivalence de ses sentiments, où elle décrit l'horreur extérieure qu'était son père, et ce père aimant et merveilleux qu'elle a connu. Donc c'est un très beau livre, pas du tout manichéen, sur ce mélange des sentiments, et elle parle très très bien de la guerre coloniale, et quand vous avez lu La splendeur du Portugal, vous pouvez lire ça après, vous voyez que ça parle presque du même sujet de manière très différente. Et elle trouve les mots pour le faire, c'est parfois violent, c'est souvent très drôle, parce qu'elle a beaucoup d'humour, et elle a enchaîné après avec La grosse, alors là c'est la description de son adolescence au Portugal, et elle traite ses problèmes de poids avec beaucoup de drôlerie, et comment elle s'adapte à la vie portugaise après le 25 avril, où le Portugal commence à se reconstruire. Et c'est un livre très amusant, très très fin. Et puis son dernier livre, c'est Un chien au milieu du chemin, là elle ne parle plus d'elle. Elle décrit un personnage dans la banlieue de Lisbonne, un homme qui fait les poubelles, qui ramasse les objets dans les poubelles pour les revendre, et qui vit avec des chiens. Et qui rencontre une femme qu'on appelle la tueuse, qui elle vit cloîtrée dans sa maison, entourée d'objets les plus étranges qu'elle a amassés depuis des années. Deux êtres perdus, brisés, mais qui vont se retrouver, et grâce au chien, grâce au chien, qui va servir d'intermédiaire. Et c'est un très beau livre sur les vies marginales, des vies brisées, des vies égarées dans notre monde qui est bien décrit, hein, c'est le monde d'aujourd'hui, mais qui vont se retrouver, se construire. C'est un livre assez optimiste et très beau, qui connaît beaucoup de succès. Je ne sais pas s'il aura un prix. Je sais qu'il est sélectionné pour 30 millions d'amis, mais je ne sais pas s'il sera sélectionné par le Féminin Médicis. Je ne sais pas, on verra. C'est une autrice qu'on aime beaucoup et qui a vraiment trouvé son public en France. Et elle parle toujours de ses problèmes du souvenir de la guerre coloniale, de la démocratie, hein, de post-25 avril. On ne parle pas du 25 avril, mais on parle du début de la démocratie et des tâtonnements de cette démocratie. Voilà. Alors j'ai préparé plein d'autres choses, mais on n'a plus beaucoup de temps. Il y a un quart d'heure. Voilà. Et le taxi vient, j'ai pu le réserver. Oui, tout va bien. Est-ce que vous avez des... Alors, j'avais préparé des choses avec d'autres auteurs, genre José Luis Peixoto, Walter Hugo May, Valerio Roman, qui est notre auteur fétiche, qu'on adore. Lui, il a un monde à la Lobo Antunes. Il a un monde tout à fait étonnant, à la fois très glauque et très très drôle. C'est burlesque, c'est étonnant. Autisme a failli avoir le prix Femina étranger, mais la présidente nous a téléphoné pour nous dire que c'était trop dur pour son public, que tout le monde avait adoré ce livre, mais ils trouvaient que ça serait un peu dur pour le public du Femina, donc ils ont préféré prendre un livre d'Hubert Haddad qui était plus consensuel. C'est un livre foudroyant, lui-même un fils autiste. Alors il en parle avec dureté, mais c'est drôle, c'est étonnant, c'est absolument fascinant. Et il y a une série de trois livres qui s'appelle Paternité ratée, donc il y a Autisme, il y a Les eaux de Johanna. C'est une femme qui accouche d'un enfant mort et qui refuse de penser qu'il est mort. On est dans une folie totale. C'est très drôle, malgré le sujet qui semble sinistre. Et le troisième, c'est sur Alzheimer. Oui. manqué à l'appel. C'est l'histoire d'une relation de deux femmes et entre une mère et sa fille, et la mère perd la mémoire, commence à devenir frappée d'Alzheimer. Mais ce qui sauve, c'est qu'il décrit ce monde, il y a du Céline chez lui. Il y a un côté Rabelais, Céline, c'est-à-dire il raconte des choses terribles, mais qui nous arrivent plus ou moins à tous, ou à notre entourage, mais avec un humour extrêmement décapant. Et le petit livre rouge, c'était notre grand succès avec lui, c'est 10 raisons de vouloir être chat. Voilà. Alors c'est 10 nouvelles, alors les gens l'achètent parce que d'abord il y a le mot chat dans la couverture, et il y a 10 chats. Et en librairie, on sait, les éditeurs savent que si vous mettez un chat sur la couverture, la vente augmente mécaniquement de 37%. Voilà. Donc, les gens croient que c'est des jolies histoires de petits chats. Donc, ah, on va acheter ça. Alors, je les mets en garde, mais à mon avis, il y en a beaucoup qui ont été surpris parce que c'est des nouvelles d'un humour noir total. Il décrit un homme dépressif, complètement dépressif, au bout du rouleau, avec humour, mais seule l'image du chat à la fin le fait remonter à la surface, lui met le nez hors de l'eau, la beauté du chat, la grâce du chat, est la seule chose qu'il sauve dans ce monde. C'est très drôle, mais c'est vrai que c'est de l'humour noir, hein, total. Hein. Ça fait penser à Jean-Pierre Martinet, pour ceux qui connaissent. Mais c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Voilà. Alors, à la librairie, souvent on me demande, je voudrais un livre sur Lisbonne, je voudrais un livre sur la dictature, je voudrais un livre sur tel sujet, sur l'Afrique. Donc, j'avais préparé des listes sur Lisbonne, sur Porto, sur le Nord, sur la dictature.
Cette Bignon, on a la bibliothèque, elle est excellente.
Comment?
Pereira Prétan.
Comment?
Pereira Prétan.
Pereira Prétan, voilà. Sur la dictature, c'est le meilleur livre de Tabucchi, écrit en italien, sur le salazarisme, Pereira Prétan.
Voilà,
il est là, voilà. Pereira Prétan.
Sauf que il n'est pas
portugais. Il n'est pas portugais, mais il a épousé une Portugaise, il a traduit Pessoa, je l'ai connu à Lisbonne, et il a fait un livre entièrement portugais, c'est Requiem, qui est un des très très beaux livres sur Lisbonne. Ouais. Extraordinaire, Requiem. Et il a écrit en portugais, il a capté la langue portugaise, sa femme l'a un peu aidé, mais c'est un amoureux, un connaisseur de Pessoa et Lisbonne comme personne. J'avais les Açores, l'émigration. On a lancé une collection de textes littéraires sur l'émigration, qui a beaucoup de succès. José Vieira est un grand documentariste, qui a beaucoup documenté l'émigration portugaise. Il a fait une biographie. Le second, c'est Valadas, qui raconte son parcours de combattant, de militant émigré en France. Et le troisième, ça va être qui a l'air d'être très bien accueilli. C'est le témoignage d'une jeune femme qui a été élevée dans une loge de concierge, et comment elle a réussi, mais en affrontant tous les préjugés de son entourage, des siens, mais aussi des Français. Et ça va s'appeler La classe et le... J'oublie, ça commence La classe et le travail, ou quelque chose comme ça. Et donc, on a aussi un livre qui s'appelle Exil, où ce sont 12 récits de gens qui ont traversé la frontière au moment de la dictature, et surtout pendant les guerres coloniales, où il fallait fuir la conscription qui durait 3 ans, et qui était souvent sanctionné par la mort, la maladie, plus les dégâts psychologiques. Et donc l'émigration aussi, c'est un... Je vais parler de Peixoto tout à l'heure, il a fait un grand, grand roman sur l'émigration portugaise, ça s'appelle Livro, chez Grasset. J'avais fait une série sur le roman policier, l'autofiction, l'humour, le fantastique, la guerre coloniale, où il y a beaucoup de livres sur la guerre coloniale, et je signalais en effet des auteurs de lusophones, Miyakuto au Mozambique, Agualusa en Angola, Anwana, Anjaki, Pepetela, tous des auteurs africains qui parlent de la guerre, qui parlent de l'Afrique, et dont certains ont beaucoup de talent. Et je voulais finir par Miyakuto, qui est pour moi, je ne sais pas si des gens ont lu Miyakuto parmi vous, oui. Combien d'étoiles vous lui mettez? Pas mal, hein? Bon, il y a un livre que je déconseille, c'est les Sables de l'Empereur, parce que c'est un gros pavé et ça ne lui ressemble pas. C'est, pour beaucoup de gens, le plus grand auteur de langue portugaise actuelle. Et il excelle dans les récits, les nouvelles. Tombe, tombe au fond de l'eau, la pluie ébahie, c'est des petits bijoux. C'est toujours sur mon bureau, les gens les achètent parce que je leur conseille, je leur ordonne de les acheter, mais une fois sur quatre, ils reviennent en acheter deux ou trois pour offrir à leurs amis, tellement ils sont séduits. Et là, ils commencent à lire les autres nouvelles, Le chasseur d'éléphants invisibles, Le fil d'Alice Sanga. Il fait des romans aussi qui sont assez beaux, parfois avec des longueurs. Terre somnambule, ça se passe pendant la guerre au Mozambique, c'est le roman qu'il a fait connaître. Et L'accordeur de silence, qui est peut-être son plus beau roman, qui se passe au Mozambique, on est dans l'après-guerre civile. C'est une langue d'une poésie absolue, il y a un humour étonnant, et on sent l'Afrique d'une manière étonnante. Par exemple, il a une manière de créer des mots-valises, on a l'impression que c'est des mots africains, créés par les Africains, pas du tout, c'est lui qui le fait, mais ça sonne complètement africain. Il n'arrête pas de créer des faux proverbes africains, mais on se sent vraiment en Afrique avec ces faux proverbes. Et c'est un auteur magnifique, merveilleux. Je ne sais pas si, madame, au fond, vous avez lu quel livre ?
Celui dont vous parliez à l'instant.
L'accordeur de silence, oui, très grand roman. Hein, madame approuve, voilà. Esther Somnambule, un roman très fort sur la guerre, très étonnant.
Dernier vol du flamand
aussi. Oui. Voilà. Mais tout ça, ce sont des romans. Je vous conseille vraiment les nouvelles, les textes courts, c'est une merveille, vraiment une merveille. Voilà. On a encore le temps pour quelques questions, rappelant que là vous avez le catalogue des éditions avec les cartes de visite que vous pouvez prendre après, et si vous passez près du Panthéon, ben, la librairie qui existe depuis 40 ans, elle se trouve sur une petite place à côté du Panthéon, et
c'est quand même place de l'Estrapade.
Hein, L'Estrapade, oui, qui est un supplice qui a beaucoup moins cours actuellement. Mais quand même, c'est pas une place neutre. Hein. Et donc, on a un site aussi depuis 20 ans où tous les livres, en français notamment et en portugais, sont sur le site, qui nous permet de toucher des gens en province, en banlieue, dans le monde entier. Et vous serez toujours le bienvenu si vous venez. On a un peu de temps pour des dernières questions, des suggestions, des...
Vous pouvez remettre votre site sur les romans policiers.
Les romans policiers. C'est pas ce qu'ils font de mieux, les portugais.
Ah,
oui.
C'est... Ça, vous l'avez...
Non, parce que je ne pouvais pas parler de tout. Les romans policiers, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, et ce qui les caractérise, c'est que c'est trop long. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils lisent plus de romans américains pour couper. Ils ont tendance à se dilater et il n'y a pas d'éditeur au Portugal capable de dire aux auteurs, vous me réduisez ça de 50%. En gros, si c'était réduit de 50%, ça serait génial. Tandis que là, ce sont des romans policiers qui se traînent un peu. On se demande si c'est des romans policiers, un moment. Il y a Tabouki, alors je signale deux livres. Cardoso Pires, Balade de la plage aux chiens, Fernando Damora, Fleuve triste. C'est des romans qui datent il y a à peu près 50 ans. Et Tabouki disait que c'est des romans policiers à la portugaise. C'est-à-dire que ça commence par un crime, une enquête, et puis ça devient un roman social, une critique de la dictature, et l'enquête se perd dans les sables à la fin, on ne s'intéresse plus aux coupables, ni à rien. Ces deux livres, c'est un peu ça. Mais c'est un portrait de Lisbonne à chaque fois magnifique, l'oppression sous la dictature, la méfiance entre les gens. Et Tabouki dit, voilà, c'est le policier à la portugaise de cette époque. Ça commence comme un roman policier, ça finit comme un roman social et existentiel. C'est des beaux livres, hein, d'ailleurs. D'autres questions, curiosités ?
J'ai cru comprendre que vous avez publié sous un nom chez vous. Pourquoi ? Enfin, Xavier de Castro, je crois.
Oui, oui.
Il y a une raison ?
Oui, quand je publie aux éditions Chandail et Lima, c'est des préfaces, des notes, des traductions. Je ne mets pas la traduction de Michel Chandail aux éditions Chandail et Lima. En plus, déjà, je fais les compositions, tout. Donc, j'ai pris un pseudonyme pour ne pas apparaître sur la couverture deux fois. C'est une question d'esthétique et de politesse. Donc, j'ai pris le pseudonyme de Xavier de Castro. Xavier de Saint-François-Xavier, Castro de Don Juan de Castro, un gouverneur portugais très humaniste, donc ça fait Xavier de Castro, ça se dit en portugais, en espagnol, en français, et donc j'ai pris l'habitude depuis longtemps de prendre ce nom quand je publie dans mes propres éditions. Le Magellan que j'ai fait a été traduit au Portugal. Là, j'ai repris mon nom pour l'édition portugaise à l'imprimerie nationale. Mais
vous
voilà.
Avez fait le Magellan, le navigateur.
Oui, oui, oui. Oh. Alors, sur Magellan, j'ai fait, avec une équipe, quand même, le livre de 1000 pages, qui est la référence mondiale, ça, je dois le dire. J'ai été conseiller des émissions, des documentaires d'Arte, de François Gribrol, qui ont eu beaucoup de succès. Il y a eu 6 millions de visionnages complets. Hein, et il est de nouveau disponible sur Arte, en libre accès, pendant 5 mois, ceux qui ne l'ont pas vu. Je suis passé sur France Inter, oui, c'est mon actualité, parce que je suis aussi conseiller scientifique de l'exposition Magellan, qui a commencé le 22 octobre et qui va durer jusqu'au 1er mars. Et si vous voulez m'écouter, je fais une conférence samedi prochain à 11h30 au musée de la Marine sur Magellan. Mais vous pouvez venir, ça sera, je pense, ça va être l'apogée de ma carrière magellanesque. Mais il faut s'inscrire sur le site du musée. Il faut aller sur le site du musée, s'inscrire pour avoir une place, parce qu'il y avait la conférence de l'après-midi qui a été vite complète, donc on a ouvert un créneau le matin, mais il faut s'inscrire. Et en effet, Magellan, c'est vraiment devenu ma spécialité. Et ce qui est étonnant, c'est que ce soit moi, avec une petite équipe, qui avons fait le livre de référence mondiale. On a réuni tous les témoignages directs sur Magellan, personne au monde ne l'avait fait. Et en les réunissant, en les confrontant, on a découvert des dizaines d'erreurs récurrentes. On a établi des dizaines d'erreurs, on a trouvé aussi beaucoup de nouveautés que personne n'avait vues. Ça, c'est très, très, très étonnant. Mais c'est tombé sur moi, c'est une chance.
C'est tout à votre
retard. Non,
c'est un Français quand même, oui. Un Portugais qui a travaillé pour l'Espagne.
Oui, c'est ça. Sur un navire où il y avait 10 nationalités. Mmh.
Et du coup, vous avez enquêté,
Oui, avec l'équipe, on a repris toutes les archives, on a réuni tous les témoignages directs. On a laissé de côté les témoignages plus tardifs, on est allé les voir plus tard. Et simplement en les confrontant, les listes des morts, on s'est aperçu qu'il y avait 9 morts en Pacifique, et pas... pas 19, etc. Oui, il y a 91 survivants dans l'expédition de Magellan, et pas 18, etc. Ouais. etc. Voilà. Mais bon, c'est une autre conférence, on m'inviterait peut-être sur Magellan, je reviendrai très volontiers, parce que je trouve le public très attentif, ça fait plaisir. C'est pas toujours le cas, donc merci beaucoup.